Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne.
Pour présenter très très succinctement cette séance, qui est fort importante, on va reparler bien sûr de la question de l'identification dans les réseaux sociaux. Et c'est Maître Haas, également chargé de cours au sein du master, qui va nous révéler les mystères de l'identification. Puis Monsieur Ngounou, qui est également chargé de cours dans le master, va pouvoir brosser largement la question vie privée et vie professionnelle dans l'ère numérique. Permettez-moi de vous présenter le professeur Jean-Emmanuel Rey, qui nous a rejoint pour un court moment, car c'est un spécialiste des questions de l'Internet dans le cadre du droit du travail, de la vie des entreprises. Et il nous fait donc l'honneur de participer à notre discussion. Peut-être que, s'il est gentil, il pourra nous... Oui, bien sûr qu'il n'a pas le temps, mais il n'oubliera pas cependant, peut-être, de nous dire quelques mots. Enfin, si jamais il partait, c'est à cause des mémoires des étudiants, c'est parfaitement légitime. C'est la saison. Puis, un rapport extrêmement important et qui est difficile à faire sur la protection des données bancaires. C'est une question qui agite beaucoup, beaucoup les gens. On a pas mal de jurisprudence. Enfin, ou presque enfin, numérique et traitement des données à caractère personnel par l'État. Ici, nous avons une orfèvre en la personne de Madame de Biesse, également chargée de cours, et qui suit ces questions depuis pratiquement 10 ans. Enfin, donc, numérique et commercialisation des données personnelles, quelles possibilités, par Maître Nathalie Metalinos. Vous êtes avocate, non? Par fut Maître Nathalie Metalinos. Donc je passe tout de suite, bien sûr, la parole à Maître Haas.
Bonjour. Donc réseaux sociaux et identification numérique, c'est un sujet de très forte actualité. Nous avons ici un travailliste. Donc on annonçait hier que des personnes avaient été licenciées en raison de propos tenus sur Facebook tout à fait négatif pour l'entreprise. Il y a des affaires pendantes donc à ce sujet. Donc la question, c'est de savoir comment le chef d'entreprise a eu accès à ces propos sur Facebook. Il y a eu, en ce qui concerne l'identification numérique, hier, on a également annoncé que SFR avait mis à nu, enfin, on a parlé d'une affaire de vol de code PIN sur des téléphones, une affaire extrêmement importante qui durait depuis 5 ans, qui a été révélée hier au public. Donc moi, je vous parle donc des réseaux sociaux et des questions d'identification numérique qui sont au cœur de ces problématiques. Alors les réseaux sociaux, on en parle beaucoup, ce n'est pas du tout nouveau. Il y a toujours eu des réseaux sociaux, des clubs, des associations, d'anciens élèves, de personnes qui aiment la pratique de tel sport, de telle activité. Ce qui est nouveau, c'est l'ampleur du phénomène, et c'est toujours la même chose que ce phénomène aujourd'hui est sur Internet. Donc qui dit Internet dit caractère international de la diffusion et de l'activité, et dit également usage de technologies qui permettent une diffusion fantastique de toutes les données, et notamment des données personnelles, et des données d'identification au sens plus général. Qui est concerné? Deux types de catégories de personnes sont concernées. Tout d'abord, et c'est celle à laquelle on pense tout de suite, en écho à ces problèmes de licenciement, à ces problèmes d'embauche, on ne vous embaucherait pas parce qu'on a vu sur Facebook que vous avez fumé un joint quand vous aviez 15 ans et que vous avez trouvé que c'est très bien, etc. Il y a bien entendu un problème pour les personnes privées, mais il y a également un problème pour les personnes morales, un problème pour la vie des affaires, avec les entreprises qui voient leur dénomination sociale, leur marque, utilisée par des tiers, par des membres de l'entreprise sur les réseaux sociaux, de façon qui peut leur être préjudiciable et qui porte atteinte à leur image, à ce qu'on appelle aujourd'hui l'e-réputation ou la réputation numérique. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un réseau social? Quel est le modèle économique d'un réseau social? Qu'est-ce qu'un réseau social? Il y a, et chacun le sait, différentes catégories de réseaux sociaux. Et je pense que c'est important de le rappeler, parce que là, on voit quels sont les impacts aussi de ces différents réseaux sociaux. Alors, ceux les plus connus et ceux qui posent le plus de difficultés sont les réseaux sociaux d'amis, avec en tête Facebook. Facebook va considérablement dominer mon exposé, puisque Facebook, c'est un phénomène absolument incroyable. Aujourd'hui, Facebook domine le monde des réseaux sociaux amicaux et est de plus en plus utilisé à des fins commerciales. Il y a aussi MySpace, Copainavant, Trombi, ça c'est pour ce qui est franco-français. En Chine, il y a un autre réseau qui s'appelle QQ, les deux lettres Q, qui a 500 millions d'utilisateurs, ce qui est également le chiffre de Facebook aujourd'hui. Il y a les réseaux d'affaires. Alors là, c'est LinkedIn, que tout le monde connaît, et Viadeo, qui est plus français. Il y a aujourd'hui le micro-blogging avec Twitter. Il y a des réseaux sociaux qui agrègent également du contenu, là avec Google Buzz. Il y a des réseaux sociaux qui sont autour du téléchargement de musique, de vidéos, avec YouTube, Dailymotion. Il y a des réseaux sociaux d'entreprise, ça on en parle beaucoup moins, mais il peut être très intéressant. Et là, on rejoint les réseaux sociaux plus traditionnels. Il y a beaucoup de très grosses entreprises créent des réseaux sociaux de leurs anciens salariés pour favoriser la vie sociale et également, je pense, pour les intérêts de l'entreprise. Garder les contacts, éventuellement utiliser ces contacts. Alors, c'est un phénomène mondial de masse, et là, je vais citer des chiffres. Il est toujours très intéressant de citer des chiffres, ça montre l'ampleur du phénomène. Donc là, c'est centré sur Facebook. Facebook, et là, ce sont des chiffres absolument faramineux. Facebook, c'était en 2008 150 millions d'utilisateurs, dont à l'époque 4 millions en France. Donc ça, c'est il y a 2 ans. Fin 2009, 350 millions d'utilisateurs. Aujourd'hui, 500 millions, dont 17 millions en France. Ces chiffres sont absolument faramineux. On dit aussi, par exemple, il y a eu là des articles qui ont dit qu'aujourd'hui, le fondateur de Facebook est plus riche que le fondateur d'Apple pour la première année. Des autres chiffres concernant le temps passé sur les réseaux sociaux. Là, ce sont des statistiques américaines. Donc, bien évidemment, les Américains sont toujours en avance sur nous. C'est quand même eux qui ont créé l'Internet, même si on les a aidés à créer l'Internet grâce à nos informaticiens. Je me permets de le préciser. Ils sont en avance sur nous en ce qui concerne l'équipement, en ce qui concerne les habitudes d'usage. Donc aujourd'hui aux États-Unis, c'est une étude Nielsen d'août 2010, donc qui nous dit qu'en juin 2009, le temps passé sur les réseaux sociaux par les Américains était de 15,8% du temps passé donc sur Internet. En juin 2010, donc un an plus tard, c'était 22,7%. Donc en un an, on constate là une augmentation de 43%. Donc il y a un phénomène inverse qui est très intéressant, qui est de comparer ces chiffres avec ceux relatifs au temps passé sur les messageries électroniques. Donc en fait, vous le savez tous, on passe de moins en moins de temps sur les messageries électroniques et de plus en plus de temps sur les réseaux sociaux. Et cela se traduit très clairement dans les chiffres, en tout cas déjà aux États-Unis. Donc pour le temps passé sur les messageries électroniques, en juin 2009, c'était 11,5% et en juin 2010, c'était 8,3%, donc une baisse de 28%. Ces chiffres sont considérables. Alors, quel est maintenant le modèle économique? Parce que c'est bien beau, les réseaux sociaux, mais nous sommes dans une économie capitaliste. Ces entreprises sont des entreprises privées. Donc, bien entendu, le but et la nécessité aussi, c'est de générer du profit. Donc, quel est le modèle économique? Et là, c'est vrai que j'oriente plus mon propos sur Facebook, puisque c'est le phénomène majeur, qui est, je pense, très significatif du mouvement dans sa généralité. Donc, le modèle économique de base, c'est la collecte des données. Et ces données sont des données personnelles. Second stade, c'est la commercialisation de ces données et la vente d'espaces publicitaires avec ce que l'on appelle le pay-per-click ou le pay-per-view. Donc, Facebook permet aux entreprises, et c'est là qu'il faut bien associer personnes privées et entreprises, Facebook permet aux entreprises d'afficher leur publicité sur les pages, sur les murs des utilisateurs. Et donc, l'entreprise paye à Facebook un pourcentage qui est prévu dans un contrat, qui est fonction ou bien du clic de l'internaute sur le lien publicitaire, ou bien uniquement de l'affichage de la publicité. Alors, tout l'intérêt sur Facebook, c'est que grâce à la collecte des données personnelles, ces publicités ne s'affichent pas au hasard, loin de là. Facebook a énormément de données qui permettent d'identifier tout simplement l'âge de la personne, son sexe, le pays où elle habite, mais également et surtout, et c'est là que c'est extrêmement intéressant, les habitudes de la personne, ses loisirs, ses lectures, ce qu'elle a l'habitude de faire. Donc selon ces différentes informations, Facebook pourra orienter l'affichage des publicités vers le profil des internautes qui sera le plus parfaitement adéquat possible avec l'objet de la publicité. D'où pour les annonceurs, l'intérêt de cette activité publicitaire sur Facebook, puisqu'elle sera supposée être particulièrement efficace. Et alors là, il y a aussi une chose qui est intéressante, c'est que je me suis dit, c'est quand même incroyable, parce qu'en fait, Facebook vend de l'espace publicitaire, et traditionnellement, dans ce qu'on appelle le monde réel, on sait qu'acheter un espace publicitaire, c'est extrêmement cher. Acheter un bon espace publicitaire, ça veut dire acheter, par exemple, du temps d'antenne sur une radio, sur une télé, acheter un espace d'affichage dans un espace public, dans la rue, ou bien acheter des pages de couverture sur des journaux nationaux, ou bien des journaux qui concernent le sujet qui correspond au produit que vous voulez vendre. Et ces espaces sont en général très très chers. Apparemment, sur Facebook, le modèle est différent. Le principe de Facebook, c'est d'avoir un très très grand nombre d'utilisateurs et de jouer sur la masse. Donc Facebook sera un espace intéressant pour les annonceurs parce que l'annonceur sait qu'il pourra toucher énormément de personnes et toucher les bonnes personnes. Facebook, de par la technologie qu'il utilise, peut démultiplier quasiment à l'infini ses espaces d'affichage. Donc il n'a pas besoin aujourd'hui, il n'y a pas de phénomène de rareté comme il y a pour les espaces d'affichage dans la rue. Vous ne pouvez pas afficher dans une même rue plusieurs affiches publicitaires. Seulement avec Deco, vous avez ces publicités qui tournent. Enfin, il y en a peut-être 5, pas plus. Par contre, sur Facebook, c'est une démultiplication à l'infini. Donc là, on voit aussi que l'Internet est pour les publicitaires et les marketeurs un nouvel espace absolument phénoménal où ils peuvent déployer leurs techniques à des coûts parfois extrêmement compétitifs. Bon, je ne vais pas trop m'étendre sur ces aspects, mais je pense qu'ils sont extrêmement intéressants et que ça va probablement changer fondamentalement beaucoup de choses. En tout cas, ça va fondamentalement changer, je pense, et ça a déjà changé le monde de la publicité. Facebook développe également, et ça c'est moins connu, une nouvelle activité pour gagner de l'argent, ça s'appelle les crédits Facebook. C'est-à-dire que Facebook a le projet et l'ambition, je dirais, de créer une nouvelle monnaie sur Internet, que l'on appelle aujourd'hui crédit Facebook. Donc vous pourrez acheter avec du vrai argent ces crédits Facebook. Et avec ces crédits Facebook, vous pourrez ensuite acheter sur Facebook et pourquoi pas sur d'autres sites, des applications. Alors aujourd'hui, c'est encore assez peu... Enfin, ça existe, je crois, déjà à peu près depuis une année. Je n'ai pas expérimenté cet achat de crédit Facebook. C'est une idée, je pense, extrêmement intéressante. On verra quel est son cheminement et quel est son succès. Mais en tout cas, c'est un modèle économique qui a été conçu et qui aujourd'hui est utilisé par Facebook. Alors, il y a non seulement le modèle économique du réseau social, mais il y a également des modèles économiques qui, sur ces réseaux sociaux, sont créés par les utilisateurs des réseaux sociaux, puisque les utilisateurs, bien entendu, s'approprient chacun à leur façon ces réseaux sociaux. Et comme l'objectif de la plupart des personnes, c'est de faire de l'argent, eh bien, elles cherchent à développer sur les réseaux sociaux des modèles économiques qui leur permettent de générer des profits. Donc on voit que sur Facebook, il y a une activité qui se développe, bien entendu, qui est une activité publicitaire. C'est, je dirais, naturellement l'activité qui permet de générer de l'argent. Donc il y a des personnes qui créent des pages, souvent avec des termes génériques, et qui mettent sur ces pages donc des contenus tout à fait pertinents, donc qui créent un lieu où elle sa, où, qui est tout à fait adapté pour générer du trafic. Et donc, dès lors qu'elles ont généré suffisamment de trafic, elles ont suffisamment de fans, puisque là, on utilise le vocabulaire Facebook, elles commencent à vendre de l'espace publicitaire elles-mêmes sur leur site. Alors aujourd'hui, il y a tout de même une inconnue, c'est que est-ce que Facebook va ou non tolérer ce genre de pratique ? Dans les conditions d'utilisation de Facebook, il est précisé que les activités pyramidales en matière de publicité sont interdites. Donc, je ne sais pas exactement ce que ça signifie, mais on peut supposer que pyramidal, ça veut dire que Facebook donne un espace et que celui qui bénéficie de cet espace sur Facebook lui-même consent des autorisations d'utilisation de cet espace à un tiers. Je m'interroge sur la question, je n'ai pas la réponse exacte. Il y a également une autre façon de générer un profit grâce à Facebook, c'est la vente des URL personnalisées, puisque Facebook, comme vous le savez, a permis à chacun donc, de créer sa propre URL, donc avec facebook.com/ et le nom que vous choisissez. Et aujourd'hui, il y a un commerce de ces URL personnalisées. Alors techniquement, cela pose certains problèmes, contractuellement aussi, parce qu'au départ, enfin, Facebook n'a pas conçu ces adresses personnalisées pour qu'elles puissent être vendues, mais il semble que cela soit tout de même le cas. Donc il y a des contraintes techniques à cette vente d'URL personnalisées, puisqu'il faut vendre à la fois le compte associé à l'URL, mais il semble que cela soit un phénomène réel. Alors maintenant, quelles sont les difficultés posées par ces pratiques sur les réseaux sociaux ? Elles sont de différents ordres. Tout d'abord, c'est des difficultés relatives à la protection des données personnelles, puisqu'on voit que les données personnelles sont directement utilisées par les annonceurs, par Facebook, dans un objectif publicitaire, qu'elles sont également utilisées par les tiers pour vous licencier, pour ne pas vous embaucher, pour ne pas vous rencontrer, pour ne pas faire des affaires avec vous, et je ne sais encore. Il y a des difficultés relatives donc, au respect de la vie privée, puisque ces données qui peuvent être divulguées ou ces propos qui peuvent être divulgués peuvent être attentatoires à la vie privée. Il y a également des difficultés relatives aux droits de propriété intellectuelle, puisqu'une entreprise peut voir sa marque utilisée dans des conditions qui sont illicites. Elle peut voir sa marque également parodiée dans des conditions qui portent atteinte à son image. Il y a des difficultés maintenant relatives aux particularités de l'Internet qui rendent la réaction contre ces atteintes particulièrement difficile. La difficulté première, c'est la volatilité de l'Internet et la volatilité des données. Une autre difficulté relative à l'anonymat, puisque même s'il y a des règles d'identification sur Internet, et vous le savez chacun, il y a énormément de faux profils, par exemple sur Facebook, il est extrêmement facile de donner des données d'identification qui sont fausses, qui ne correspondent pas exactement à votre état civil. Il est également possible de se connecter sur Internet à partir d'un webcafé, et donc si en cas de difficulté, on identifiera l'ordinateur à partir duquel le message a été envoyé, on ne pourra jamais savoir quelle est la personne qui a donc tenu les propos ce jour-là sur cet ordinateur dans ce webcafé précis. D'autres difficultés relatives au caractère international de l'Internet et au fait que Facebook et que beaucoup de réseaux sociaux ne sont pas domiciliés en France, mais aux États-Unis. Et une autre difficulté, et là je rejoins Georges qui en parlait tout à l'heure, on n'en parle pas toujours beaucoup, sont les contrats. Chaque réseau social a ses conditions générales d'utilisation, a sa charte d'usage, a ses principes d'usage. Et bien entendu, dans ses dispositions contractuelles, la responsabilité du réseau social est toujours dégagée, bien entendu. Vous cédez tous vos droits de propriété intellectuelle, le réseau social n'est responsable de rien. Globalement, j'exagère peut-être un petit peu, et sachant que bien entendu, ces règles sont toujours associées à des procédures de notification en ligne en cas d'atteinte à vos droits, en cas d'atteinte à votre vie privée, et en cas d'usurpation de vos données personnelles. Donc là, on voit que le mécanisme est toujours le même en matière d'Internet, c'est-à-dire que c'est au public des internautes à surveiller l'Internet et à être extrêmement vigilant et actif pour se protéger. Maintenant, je voudrais aborder également un autre aspect, c'est les modes d'usage des réseaux sociaux pour l'utilisateur lambda qui lui-même n'est pas membre du réseau social. Alors, en tant qu'avocate, je peux vous dire que, bien entendu, enfin, comme vous le savez, l'Internet, c'est une mine de renseignements. Moi, je fais beaucoup de litiges concernant les noms de domaine et Internet. Alors, bien entendu, la première réaction c'est de taper le nom du titulaire du nom de domaine pour voir s'il a déjà fait l'objet d'une procédure UDRP, d'une décision qu'il a déclarée comme étant un cybersquatter notoire. Donc ça, c'est extrêmement facile. Ensuite, bien entendu, il y a très souvent un profil sur LinkedIn. Ça, c'est aussi en général très intéressant parce que vous savez où a travaillé cette personne. Alors si, comme par hasard, elle a travaillé dans l'entreprise qui est titulaire du nom de domaine qui vous pose des problèmes, bon, ben, ça aide pour le dossier. Enfin, il y a énormément d'informations très, très intéressantes. Donc, le tiers, il suffit qu'il se fasse une requête sur Google pour accéder à un nombre important de données. Quelles sont les données excusez-moi, je me rends compte que là, oui. Quelles sont les données qui ont été utilisées par l'internaute qui lui s'est abonné et devenu membre d'un réseau social? Ce sont ses identifiants, donc les identifiants qu'il a utilisés pour l'occasion, qui ne correspondent pas nécessairement à son état civil, son mot de passe. C'est lorsqu'il se connecte, une autre donnée d'identification extrêmement importante qui concerne l'utilisateur plus précisément, c'est l'adresse IP de l'ordinateur à partir duquel il se connecte. Autre moyen d'identification, c'est le pseudo qu'il peut avoir utilisé. Et très souvent, et ça c'est une chose qui moi me frappe en tant que praticien du droit à la propriété intellectuelle, c'est que très souvent, les personnes qui sont sur les réseaux sociaux s'identifient avec leur pseudo ou leur patronyme réel, mais également avec le nom de leur entreprise. Et également les autres données dont j'ai parlé, c'est-à-dire adresse postale, adresse électronique, numéro de téléphone, loisirs, etc. Donc, quels sont maintenant les modes d'usage de ces techniques d'identification? Par les utilisateurs, c'est tout simplement pour accéder au réseau social, et par les tiers, c'est pour avoir des informations sur les tiers. Alors, cette recherche d'informations sur les tiers, c'est une activité parfaitement licite. Par contre, l'aspect plus négatif, c'est qu'il y a une partie totalement illicite de cet usage des données personnelles qui sont accessibles via les réseaux sociaux. Il y a une pratique très courante. Par exemple, vous allez sur Facebook et vous collectez des données personnelles, notamment les adresses électroniques. Et très souvent, ces données peuvent être utilisées pour collecter via des sites de faux sites, pour collecter des données personnelles. Et là, on entre dans la pratique du phishing qui peut avoir des conséquences extrêmement graves. Alors, il y a des textes, bien entendu, qui protègent les données personnelles, la vie privée, etc. Donc, c'est l'article 9 du Code civil, l'article 8 de la CEDH, la loi informatique et liberté, la directive communautaire sur la protection des données personnelles, la loi LCEN qui permet, lorsque vous êtes victime d'un problème d'identification ou lorsque vous êtes victime pour l'entreprise d'atteinte à votre marque ou à votre dénomination sociale, qui permet donc de demander au juge la divulgation des données d'identification de l'internaute. Là, je précise que, comme vous le savez peut-être, le délit d'usurpation d'identité sur Internet n'existe pas, mais je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes ces finesses du droit. Il y a une chose importante en ce qui concerne maintenant la réglementation en vigueur et la jurisprudence, c'est que les adresses IP sont considérées comme des données personnelles. Et il y a une jurisprudence récente, donc du 12 avril 2010, qui dit que Facebook est un hébergeur. Donc il bénéficie en France, si toutefois il est assigné en France, du statut particulier de l'hébergeur prévu par la LCEN. Alors maintenant, comment gérer sa réputation électronique? Alors là, il faut avoir conscience d'une chose, c'est que lorsque vous êtes sur Internet, que vous choisissez de vous identifier sous un nom X ou Y, vous devez avant tout être particulièrement vigilant au nom que vous choisissez pour vous identifier et également dans le contenu du site que vous développez. Si vous choisissez votre patronyme, tout va bien, mais si vous choisissez également d'utiliser d'autres dénominations, là, vous devez bien entendu respecter les droits des tiers. Quels sont ces droits? C'est classiquement le patronyme. Pour l'entreprise, les droits de l'entreprise, c'est les marques, dénomination sociale, noms commerciaux, enseignes, les noms de domaine, les droits d'auteur, avec par exemple les titres d'œuvres de l'esprit, les titres d'ouvrage, les titres de logiciels, les appellations d'origine, etc. Les marques sont extrêmement utilisées sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un constat. Encore une fois, elles sont également utilisées en association pour les personnes privées avec leur page personnelle. Alors, comment agir pour les professionnels et pour les personnes privées pour protéger leur réputation sur Internet ? Je commence par les professionnels. Il est important pour une entreprise, je pense, de gérer sa communauté et donc d'établir une charte d'usage de l'Internet pour son entreprise, savoir comment utiliser l'Internet au sein de l'entreprise par les salariés. Il est également important pour l'entreprise de gérer sa communauté à l'extérieur de l'entreprise en étant présente sur les réseaux sociaux. C'est ce qui existe aujourd'hui avec toutes les entreprises qui ont donc leur propre compte sur Facebook, leurs propres fans et qui gèrent donc ces comptes. Il est indispensable pour l'entreprise de surveiller le web et de défendre ses droits. Et bien entendu, la conséquence, c'est de mettre en œuvre des procédures de notification et, si nécessaire, d'agir en justice. Alors, pour les utilisateurs, la première règle, c'est la bonne gestion des paramètres de sécurité. Ça, c'est indispensable et très souvent, c'est omis. Ensuite, le choix des mots de passe. Enfin, le respect du droit des tiers. Et ensuite, on ne le répétera jamais assez, c'est mesurer ses propos et son expression. Je vous remercie.